VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à N'Djamena. Le président angolais José Eduardo Santos, au pouvoir depuis 37 ans, a confirmé aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas à la présidence du pays lors des élections d'août, cédant sa place à son actuel dauphin, João Lourenço. Le comité central du MPLA a approuvé le nom du candidat João Lourenço en tête de la liste pour les élections du mois d'août, a affirmé M. Dos Santos lors de l'ouverture d'un congrès extraordinaire du parti au pouvoir. Le chef de l'État tchadien s'est félicité hier à l'occasion d'une conférence de presse du bilan de son passage à la tête de l'Union africaine, où Idriss Déby Itno vient de passer la main à son homologue guinéen. Mais l'homme fort de N'Djamena a aussi et surtout mis en perspective son avenir politique dans son pays, le Tchad. On écoute Idriss Déby Itno.
J'aurais bien souhaité me retirer et me reposer. Si vous, Tchadiens, vous êtes capable demain de ne pas vous affronter entre vous, de ne pas semer la haine ou de ne pas vous entretenir. La haine aujourd'hui qu'on cultive, vous croyez que c'est rassurant cela ? Et je disais que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave ? Je l'ai fait parce que je suis courageux ? Non, je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas que le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu merci, mon heure n'est pas arrivée encore. Mon acte de naissance est encore entre les mains de Dieu. Il n'a pas déchiré.
Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno. Comment combler le vide laissé par la mort d'Étienne Tshisekedi en RDC? Le décès de l'icône de l'opposition est survenu dans une période de négociations politiques cruciales censée mettre en place la nouvelle transition. En l'absence d'un calendrier réaliste des élections, sa mort va relancer les négociations. La journaliste Colette Brackman, spécialiste de la RDC, est pessimiste pour la suite.
Je crains que dans un premier temps, avant de se ressaisir, l'opposition sera affaiblie par sa disparition. Dans les rangs de l'UDPS, il y a pas mal de personnalités fortes, de gens tout à fait qualifiés, mais quelqu'un qui a le pouvoir, disons, de charismatique presque, de faire descendre la population dans la rue, de mobiliser les foules pour soutenir ses idées et en cas d'échec, par exemple, de susciter de grandes manifestations, quelqu'un qui a cette même aura, pour l'instant, je n'en vois pas, à part peut-être le ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, mais il n'est pas dans le pays pour l'instant, il n'est pas autorisé à y revenir.
Colette Brackman, jointe à Bruxelles.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
On va en France. Un homme armé d'au moins une machette s'est précipité ce matin sur des policiers et des militaires aux abords du musée du Louvre à Paris, proférant des menaces et criant notamment « Allah Akbar », a affirmé vendredi le préfet de police de Paris. Un militaire a tiré, blessant sérieusement au ventre l'agresseur, tandis qu'un soldat a été légèrement blessé au cuir chevelu, a ajouté ce préfet du nom de Michel Cadou. Le président français François Hollande a jugé aujourd'hui à Malte inacceptable les pressions du président américain Donald Trump sur l'Union européenne. Le chef de l'État français a également mis en garde tous ceux qui seraient tentés en Europe, notamment centrale par des relations essentiellement bilatérales avec le président américain. La chancelière allemande Angela Merkel a elle aussi appelé les Européens à faire preuve d'unité face au président américain. Le vice-président américain Mike Pence a accepté une invitation à se rendre à la conférence de Munich sur la sécurité qui aura lieu cette année du 17 au 19 février. La conférence sera marquée cette année par le brusque changement de cap des relations transatlantiques depuis l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Le nouveau président américain a qualifié l'OTAN d'obsolète, invité les pays européens à suivre l'exemple du Brexit ou encore critiqué la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel. Le nouveau patron du département d'État américain, Rex Tillerson, a promis de travailler pour le succès de la diplomatie américaine tout en disant compter sur la collaboration et l'expertise d'un personnel diplomatique pas entièrement acquis à la cause du nouveau président. Plus de 900 employés ont signé une pétition contre les mesures de Donald Trump sur l'immigration. Chérubin Dorsil a joint Léonard Wanchekon. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Princeton.
Bon, moi, je prends ça avec beaucoup d'appréhension. D'abord parce qu'il faut l'expérience politique, il faut l'expérience diplomatique. Et il faut avoir surtout un sens très clair des enjeux stratégiques actuels avant de jouer un tel rôle.
Excusez-moi de vous interrompre, professeur, mais ces affaires, justement, l'ont mis sur le parcours de beaucoup d'hommes d'État. Il a de l'expérience en ce sens.
Mais en fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas le fait de rencontrer les acteurs dans ces secteurs-là. Le problème, c'est d'avoir l'expérience et d'avoir les connaissances qu'il faut des enjeux. Moi, j'aurais préféré clairement, disons, un politique et un diplomate à ce poste-là.
Et que pensez-vous des rapports de M. Tillerson avec, par exemple, Vladimir Poutine?
Mais c'est très inquiétant, hein, de mon point de vue, parce que la Russie, c'est quand même... pas le modèle de démocratie, la Russie, c'est pas le modèle, même dans le monde des affaires, c'est pas le modèle de transparence et d'éthique. J'aurais même préféré la Chine, de ce point de vue, parce que bon, ils essaient de faire les choses d'une autre façon. Et le système chinois, c'est un système qui est loin d'être aussi répressif et aussi autoritaire que le système russe, quoi. Voilà. Donc, avec tout ce qui se passe sur le plan international actuellement, et notamment dans les pays de l'Est, l'Ukraine en particulier, c'est quand même difficile à comprendre, hein, que quelqu'un qui a des rapports aussi étroits avec l'un des adversaires les plus acharnés des États-Unis, que le ministre des Affaires étrangères des rapports privilégiés avec celui-là.
Quelle direction voyez-vous prendre la diplomatie américaine sous Rex Tillerson?
C'est difficile à dire, hein. Bon, ce qui est clair, c'est que les rapports avec la Russie vont s'améliorer, peut-être pour le meilleur ou le pire. De l'autre point de vue, je pense que l'Afrique, en particulier, sera pas une priorité parce que l'enjeu économique là-bas n'est pas aussi élevé que l'Asie et l'Europe de l'Est en particulier. Et je pense que ça risque aussi d'être une diplomatie, une politique étrangère assez musclée.
43 sénateurs sur 100 n'ont pas voté pour Rex Tillerson. Il va diriger un département actuellement en pleine grogne. Il y a plus de 900 employés qui ont signé une pétition dénonçant le décret sur l'immigration du président Trump. Il va devoir être bon manœuvrier.
C'est ça, mais je ne sais pas s'il va le faire. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve très rassurant, et c'est ça la leçon, tout le monde parle de tout le négatif, tout le mal qu'on pense de Donald Trump. La situation telle qu'elle se présente, elle est inquiétante dans un certain sens, mais elle est aussi très rassurante dans un autre. Donc il y a une résistance et une opposition de plus en plus farouche, de plus en plus osée de la part non seulement des populations, mais en fait même au sein de l'administration, au sein des gens qui sont censés seulement obéir. Les gens disent non, 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 nous avons le devoir de dire non à des choses auxquelles on ne croit pas.
Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques à l'Université de Princeton. Le secrétaire américain à la Défense a mis en garde la Corée du Nord contre toute velléité d'attaque nucléaire. Lors d'une visite à Séoul, le nouveau secrétaire à la Défense, James Mattis, a averti ce vendredi qu'une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou un de ses alliés entraînerait une réponse efficace et écrasante.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM. À Libreville.
Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun en finale de la CAN à l'issue de la deuxième demi-finale. Les Lions indomptables se sont imposés hier soir avec panache 2-0 devant le Ghana à Franceville. Duel donc au sommet pour la finale de la CAN entre le Cameroun et l'Égypte. Retour sur cette belle victoire camerounaise face aux Black Stars avec Timothée Donagmaï, l'envoyé spécial de VO Afrique au Gabon.
Les Lions du Cameroun ont résisté d'entrée de jeu aux assauts des Black Stars, puis ont peu à peu pris confiance et sont passés à l'offensive. Des efforts récompensés à la 71e minute par un but de Gadeu, puis celui de Bassogog aux arrêts de jeu. Hugo Bros, le sélectionneur du Cameroun, confiera plus tard qu'il croyait rêver.
On a commencé le match avec quelques occasions. Le deuxième mi-temps, à certains moments, on a un peu souffert. Mais là, naturellement, il faut un peu de chance. Et cette chance, nous avons eu au moment qu'on marque le premier but. Le deuxième but, ben, là, le Ghana a tout essayé pour égaliser. Et l'espace était là et on a marqué ce deuxième but. Encore une fois, je suis très content, surtout pour le groupe.
Pour le coach des Black Stars, Avram Grant, les Camerounais ont gagné contre le cours du match.
We did everything to be in the final. We dominated the game, second half completely, we dominated the game and then...
Nous avons tout fait pour être en finale. Nous avons dominé le match en seconde période complètement, a dit le coach Avram Grant, qui a tout de même souhaité bonne chance au Cameroun.
Le match, c'est dimanche donc. Merci Timothée Donagmaï. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.